enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Gloire à Dieu.
Tu es Dieu. Et ton trône est
Quand vous chantez des cantiques comme cela, ne chantez pas. Parlez à quelqu'un. Vous adressez à quelqu'un. J'aime la modernisation dans l'église. Mais la modernisation impersonnalise Dieu. Comme les écrans de chant. Les gens regardent les écrans, ils oublient Dieu. Ne mettez pas ce chant-là. Ne le mettez pas sur l'écran, s'il vous plaît. Soyons conscients de la présence de Dieu. Vous voyez, la bouche chante.
Tu es Dieu et ton trône est élevé. Tu es Dieu.
La bouche parle et entend. Je regarde mon frère, il dit, mais il a une tête plate, lui, là.
Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Alors, coucou, tu es Dieu.
Je ne sais pas si c'est lui qui est Dieu ou c'est l'autre qui est Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas une culture. C'est une réalité, une communion avec quelqu'un qui est réel. Plus réel que vous et moi. Alors, quand vous dites, tu es Dieu, tu t'adresses à quelqu'un. Tu parles à quelqu'un. Sois concentré. Pourquoi une femme dit, quand un homme parle à sa femme, ne la regarde pas et tout, mais la femme n'est pas contente. Elle dit, mais tiens, à qui tu parles? Oui ou non? C'est la même chose. Si vous dites,
tu es Dieu et ton trône est élevé.
Tu penses, toute ton imagination, toutes tes pensées sont sur lui.
Tu es Dieu, notre sacrificateur. Nous voyons ta grâce et ta splendeur. Nous nous prosternons devant ta majesté.
Alors, vous devez savoir que vous êtes devant le trône. Vous devez tout de suite vous concentrer, vous parler à quelqu'un. Vous êtes conscient de la présence de quelqu'un. Vous n'êtes pas en train de chanter. Non, vous êtes en train de louer et d'adorer une personne plus réelle que vous et moi, car il est invisible, mais les choses visibles sortent de l'invisible. Donc l'invisible est plus réel que le visible. Si les choses visibles sortent de l'invisible, ça veut dire que l'invisible est plus réel que le visible. C'est une déduction là, oui ou non? Alors, donc, il est important que vraiment nous comprenions ces choses-là et que nous avancions pas à pas, frères et sœurs, dans cette réalité de la présence de Dieu. Donc, dimanche, maintenant on peut commencer, merci, c'est 50 minutes. J'ai droit à 50 minutes, pas 45, 50. Je suis vigilant, ok. Dimanche matin, nous avons abordé ensemble, bien-aimés frères, vous savez, je vous apprécie beaucoup, vous êtes une église merveilleuse, je vous apprécie, et je tiens à vous le dire de vive voix, mais d'un cœur réel, vous êtes une église merveilleuse, nous remercions le papa Jean, qui a été vraiment l'instrument et son épouse que Dieu a utilisé, que cette église soit bâtie dans les sacrifices, dans les larmes, et dans la prière. Ce que je voudrais, c'est pourquoi quand je viens, je préfère vous parler cœur à cœur de façon franche, sans dissimulation, sans artificialisme, mais vous parler de cœur à cœur. Nous sommes des enfants d'un même père. Nous sommes les enfants d'un même royaume. Et il est important que nous vivions dans la victoire et non pas dans une vie chrétienne artificielle qui réellement ne nous donne pas ni la joie ni le bonheur. Alors je dis, nous avons dit dimanche matin, savoir discerner la présence de Dieu. Et vous avez suivi avec moi les deux disciples d'Emmaüs. Ces deux disciples ont été avec Jésus-Christ pendant 3 ans et demi. Alors, quelle merveilleuse compagnie que d'avoir Jésus-Christ comme maître et le grand enseignant, le professeur des professeurs. Pendant 3 ans et demi, ils sont assis à ses pieds. Ils ont vu Jésus cheminer. Ils ont vu Jésus parler. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Mais quel est le résultat? Après que Jésus leur ait dit, je serai crucifié, mais le troisième jour, je sortirai d'entre les morts, je ressusciterai. Jésus leur a parlé de façon claire. Tout est inscrit dans la parole de Dieu, mais eux, ils avaient la parole parlée à l'époque. Jésus est effectivement arrêté. Il a été crucifié, enseveli, ressuscité comme la parole, comme sa parole le dit, le troisième jour. Et c'est ce troisième jour, 3 jours seulement, après la séparation de Jésus et ses disciples, aucun d'entre eux n'avait plus l'assurance. Réfléchissez un peu. Le professeur de ses disciples était Jésus lui-même en personne. Ils savent qu'il ne ment pas. Ils l'ont appelé maître. Mais pourquoi, 3 jours seulement après sa mort et sa résurrection, les disciples étaient tout le temps, tous dispersés? Personne n'a osé croire ce que Jésus avait dit. Certains sont allés à la pêche et ces deux disciples d'Emmaüs ont dit, n'étant pas pêcheurs, nous préférons retourner dans notre village qui est Emmaüs. Et c'est sur le chemin d'Emmaüs que Jésus leur apparut et il s'approcha d'eux pour faire chemin avec eux. Mais la Bible dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Des gens qui ont vécu avec Jésus 3 ans et demi, les voilà maintenant, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Pourquoi leurs yeux étaient empêchés? Non pas que Dieu, de façon souveraine, a fermé leurs yeux avec un voile. Non, leurs yeux étaient empêchés de reconnaître Jésus à cause de 2 éléments principaux. Premièrement, tous croyaient que Jésus n'était qu'un simple prophète. C'est écrit, nous avons lu. Ils croyaient que c'était un simple prophète. Et personne ne croit à la résurrection d'un prophète. Donc, c'est le premier élément qui les a empêchés de croire, de réaliser que Jésus était ressuscité. Deuxième élément, ils s'attendaient à un Messie qui soit un roi politique, qui ne mourrait pas, qui allait restaurer donc l'autorité politique d'Israël pour vaincre César. Et leur roi, Jésus, a été vaincu par César. Donc aucun ne pouvait croire que Jésus avait eu la victoire. C'est ça, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors, quand Jésus a cheminé avec eux, et quand il est arrivé chez lui, et il a pris les Écritures pour ouvrir leur intelligence, pour ouvrir leurs yeux, pour qu'ils puissent réellement voir la présence de Dieu, Dieu utilise toujours 2 éléments principaux, la parole et le Saint-Esprit. Il n'a pas d'autre moyen, frère. La parole et le Saint-Esprit. La Bible dit, sans avoir un document biblique en sa possession, il est lui-même la parole. Il a commencé à le révéler par les Écritures, commençant par Moïse, ça veut dire le livre, les 5 livres de Moïse, en continuant par Josué et les autres livres, les psaumes. Il leur a parlé du Messie qui devait venir. Par les Écritures, il a commencé à ouvrir les yeux de ses deux disciples. Et quand il parlait, leur cœur brûlait. La parole brûle le cœur de l'homme. La parole sanctifie. La parole est puissante. La parole est vivante. Là où la parole est reçue, elle fait des opérations chirurgicales très profondes dans l'âme de l'homme. Et quand ils sont arrivés à Emmaüs, deuxième élément, Jésus prit le pain. Là, par un acte où le Saint-Esprit va agir, Jésus brise le pain, leur partage le pain, et le Saint-Esprit ouvrit instantanément leurs yeux. Et les deux disciples, tout de suite, s'en sont retournés en disant, c'était la nuit, ils sont retournés à Jérusalem, la même nuit, parce que ils venaient de voir, ils venaient d'être conscients, ils venaient de discerner la présence de Jésus. Et leur vie venait de changer, eux, à leur niveau. Alors, ce que nous avons vu dimanche matin, frères et sœurs, j'étais en Californie, aux États-Unis, dans une grande église comme celle-ci, où je devais commencer à prêcher. Et là, j'étais assis, je méditais, qu'est-ce que j'allais prêcher. Le Seigneur me dit, prêche sur Marthe et Marie. Les deux catégories de chrétiens dans l'église. Mais j'ai dit, Seigneur, bon, vous savez, en Amérique, c'est une grande église. J'ai dit, mais Seigneur, je veux un autre message. Il me dit, non, prêche cela. Mais avant que je ne commence à prêcher, il y avait un groupe de chorégraphie, un groupe de musiciens, de chorégraphes, qui ont fait un bel spectacle, vraiment formidable. Et devant nous, une danse, vraiment, ils ont mimé des scènes, ils ont fait beaucoup de choses. Nous étions tous émerveillés. Et vers la fin de cette chorégraphie, le Saint-Esprit me dit, tu vois, celle qui dirige la chorégraphie, elle n'est pas du tout heureuse, elle n'a pas de paix ni de joie. Et le seul moment où elle a la joie, c'est quand elle vient à l'église et elle croit qu'elle travaille pour Dieu et c'est ça seulement qui la réconforte. C'est pourquoi je te demande de prêcher sur Marthe et Marie. Quand j'ai fini de prêcher sur Marthe et Marie, et au moment où j'allais demander qu'on prie, j'ai vu cette dame qui était la responsable de la chorégraphie venir en larmes, crier, elle était assise avec moi. Elle me dit, mais ma vie, ça ne va pas. Je dis, mais pourtant, quand vous conduisez la chorégraphie, vous semblez être en extase, vous semblez avoir une joie immense, extraordinaire. Mais le Seigneur m'avait déjà dit que vous n'êtes pas heureuse, que le seul moment où vous êtes heureuse, c'est quand vous venez à l'église, l'église devient comme une petite drogue que vous prenez et vous en sortez. Elle a craqué là, elle m'a raconté sa vie de famille, c'était horrible. Il dit, mais oui, c'est pourquoi le Saint-Esprit m'a parlé, pour que tu changes. N'essaie pas de croire que la religion, et du moins c'est le christianisme, de la drogue, pour venir à l'église et puis retourner chez toi. Tu dois transporter, tu dois amener dans ta famille le christianisme. Le christianisme, c'est une vie de famille. L'église n'est qu'un centre de formation et d'adoration. Ce bâtiment n'est qu'un centre d'adoration et de formation. C'est pas ici l'église, c'est toi l'église. C'est pourquoi Jésus dit, allez dans le monde entier, il n'a pas dit, rassemblez-vous. Il a dit, allez, parce que le sel va dans tous les continents. Le sel est dans tous les continents, dans toutes les sauces, le même sel assaisonne le sel français, la nourriture française, la sauce française, la sauce américaine, la sauce africaine, le même sel. Le sel français n'est pas plus salé que le sel africain. C'est ça le christianisme. C'est pourquoi Jésus a donné deux éléments importants, le sel et la lumière. La lumière n'a pas besoin de lumière, le sel n'a pas besoin de sel. Et les chrétiens, c'est ça. Partout où vous allez, si vous êtes du sel, que vous soyez en Amérique, en Afrique, que vous soyez en Inde, que vous soyez en Asie, vous resterez sel. Aucune culture ne change le sel. Quelle est la culture qui change le sel, s'il vous plaît? Dites-moi la culture qui change le sel. Y a-t-il une culture qui change le sel dans ce monde-là? Non. Alors, aucune culture ne doit vous changer. Quelle culture doit vous changer? Aucune culture. Il y a la culture du royaume des cieux. Et la culture du royaume des cieux, c'est d'être sel et lumière. Un point, c'est tout, frère. C'est ça, la vie chrétienne. Sinon, vous allez jouer beaucoup, vous allez faire beaucoup de théâtre. Les anges vont vous regarder, ils vont dire, mais ils sont en train de jouer, faire des jeux avec des jouets. Comme les enfants qui jouent avec, vous savez, un prince qui a des avions, qui a des bateaux. Mais cet enfant qui est prince, à l'âge de 3 ans, 4 ans, joue avec des jouets, avec le train, avec des bateaux. Au moment où il joue avec des avions, il prend cet avion et fait vous. En ce temps, ces avions personnels, il est héritier des avions volent dans l'air. Et quand ils voient les avions, ils crient « Avion, avion !» Il ne sait pas que c'est son avion à lui. Beaucoup de chrétiens sont comme cela. Ils ont tout, mais ils jouent avec des jouets. Alors que la réalité est là. Passons de l'enfance à l'âge adulte. Ce soir donc, après avoir vu dimanche matin, savoir discerner la présence du Seigneur ce soir, être conscient de la présence du Seigneur, être conscient. C'est différent de savoir discerner. Être conscient de la présence de Dieu, frère. Pourquoi Dieu est-il venu vivre en nous? Posez-vous la question. Pourquoi le seul objectif de Dieu, dès le jour qu'il avait quitté le jardin d'Éden, c'était de retourner dans l'homme. C'était le but final de Dieu. Que l'homme devienne encore une habitation de Dieu. Et la Bible est remplie, le Nouveau Testament est rempli de cela. Que Dieu, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi un Dieu si puissant, si glorieux, a-t-il besoin d'un corps humain? Pour y habiter là-dedans. Et pour faire quoi? Ce n'est pas une image, ce n'est pas une imagination, ce n'est pas une doctrine, c'est pas de... Non, c'est une réalité. Quand on regardait Jésus, les gens pouvaient dire avec certitude, celui-ci-là est le Fils de Dieu. Cela veut dire quoi? Il est la représentation, il est donc le corps de Dieu sur la terre. Jésus se retourne et vous dit à vous aussi, vous êtes mon corps. Mais êtes-vous conscient que Dieu habite en vous? On va prendre simplement l'image de son peuple. Ouvrons, s'il vous plaît, dans Exode, si vous avez votre Bible. Exode. Dans le livre de l'Exode 12, regardons quelque chose que Dieu nous donne. Si vous n'avez pas de Bible, vous écrivez ceci et vous allez méditer à la maison. Exode 12. Chapitre 12. Et la Bible nous dit cette parole puissante. Un nouveau départ allait commencer pour ce peuple-là qui a été esclave pendant 430 ans, qui a été humilié, qui a été brisé. Dans Exode 12, verset 1 et 2, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Dieu dit à son peuple que les choses anciennes dans quelques jours vont passer et toutes choses vont devenir nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17, ça n'a pas commencé dans 2 Corinthiens, ça commence ici. Ce peuple esclave a été humilié, a oublié la présence de Dieu. Dieu va faire un nouveau départ pour eux. Il va faire deux choses essentielles. Ce premier mois-là, première chose, il va d'abord faire sacrifier l'agneau pascal pour que la délivrance, le salut leur soit accordé par cet agneau-là. Et l'ange de la mort n'a pas pu les détruire. Ils ont quitté l'Égypte. Ça, c'est le premier élément. Ça, c'est la Pâque. Ça, c'est notre salut. Le salut n'est que le départ. Le salut s'est fait où? En Égypte. Donc, ça se fait dans le monde. Et maintenant, Dieu vous demande, à partir de ce salut-là, de commencer une marche avec lui pour aller maintenant en Canaan, la terre promise, qui n'est pas le ciel, qui n'est que simplement la vie chrétienne victorieuse. Canaan. Canaan, ce n'est pas un modèle du ciel. Jamais. Au ciel, il n'y a pas de anak, il n'y a pas de géant. Canaan, c'est la vie chrétienne victorieuse. C'est là-bas où vous devez arriver à la plénitude de la vie. Où vous devez démontrer que Dieu est réel. Devant les anak, devant les collines, les montagnes. Vous devez démontrer la réalité de votre Dieu. Mais ils ne sont pas rentrés là-dedans. Pourquoi? Nous allons voir pourquoi ils ne sont pas arrivés. Ça, c'est très important, frère. Et dans ce passage, nous allons sauter rapidement. Nous allons partir à Exode 13. Exode 13. Maintenant qu'ils ont été sauvés de la main de Pharaon, l'ange de la mort n'a pas pu les détruire. Dieu leur a donné une espérance nouvelle. Dans Exode 13, la Bible dit, verset 17, « Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Sautons au verset 21. Le verset 21 est très important. Regardez ce que la Bible dit. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour ni la colonne de feu pendant la nuit. Dieu nous a donné son Saint-Esprit pour que nous puissions marcher jour et nuit avec lui. Le chrétien n'a pas un jour où il va à l'église. Vous entendez? C'est une erreur monumentale de l'église moderne. Il n'y a pas de jour d'église. Dieu a donné la colonne de feu pour qu'il marche jour et nuit. Jour et nuit. Vous êtes devenu enfant de Dieu, pas pour venir à l'église dimanche, mardi, vendredi. Non. Vous êtes enfant de Dieu pour que Dieu et vous, vous marchiez jour et nuit. C'est pourquoi il vous donne sa présence, qui est aujourd'hui le Saint-Esprit en nous, mais qui était à l'époque une colonne de nuée dans la journée et une colonne de feu la nuit pour les éclairer, les guider et les éclairer. Deux verbes importants, guider et éclairer. Regardez, le même Saint-Esprit, il a conduit Jésus, il a dirigé Jésus, il les a éclairés. Alors, toute vérité est en parallèle. Alors, pourquoi, malgré cette présence de la colonne de feu et la colonne de nuée, pourquoi, malgré cette présence visible de Dieu, Dieu était dans cette colonne-là? Quand le peuple levait les yeux et regardait la nuée, Dieu était dans la nuée. Et quand la nuée se levait, Moïse disait, Éternel, lève-toi et repousse tes ennemis. Le peuple suivait la colonne. Mais comment se fait-il que malgré cette présence-là, ils vont avoir des déboires? Lisons autre verset avant de revenir. Un autre verset dans Exode 14 maintenant. Exode 14. Lisons un autre verset. Verset 10. 14, 10. Pharaon approchait. Et les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Voilà, on va s'arrêter là un peu pour faire le point. Devant eux, la colonne de feu, la colonne de nuée était là. Derrière eux, Pharaon approchait. Voici votre vie chrétienne, décrite en deux mots. Écoutez-moi, frère. Ce que je vous dis, tout le monde est dans ça. Les pasteurs, tout le monde, les apôtres, les prophètes, personne n'est exclu de ça. Le prophète Moïse était là. Le souverain sacrificateur Aaron était concerné. La prophétesse Marie était concernée. Tous les ministres de Dieu étaient concernés. La colonne de feu, la présence de Dieu était là devant eux, mais une autre colonne va s'élever derrière eux, donc Pharaon. Qu'est-ce qui va se passer entre les deux présences? La question est là. Il y a deux présences. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais il dit par la bouche de Paul ou de Jacques, il dit, le diable rôde autour de vous en même temps. En même temps que Jésus est avec vous, le diable rôde autour de vous, cherchant à vous détruire. C'est à vous de savoir comment évoluer dans les deux. Voilà la vie chrétienne. Personne n'est exempté de ça. Personne. Vous ne pouvez pas signer un traité de paix avec Satan. C'est la vie chrétienne comme cela. Votre prière ne changera pas cet état. Votre jeûne ne change pas ça. Votre jeûne ne peut pas changer cet état. Il y a Dieu, il y a Satan. C'est à vous de savoir de qui serez-vous conscient le plus pour marcher avec lui. De qui êtes-vous conscient? C'est la Satan, regarde, la Bible, il dit, Pharaon s'approchait. Pharaon s'approchait de trois manières. Il y a trois éléments qui ont fait que les gens ont su que Pharaon venait. Premier élément que le peuple a vu, quand le peuple s'est retourné, premier élément visible qu'ils ont vu, la poussière. Ils ont vu une colonne de poussière derrière eux. Deuxième élément, le bruit des chars. Quand Satan vient, il fait beaucoup de bruit. Le bruit des chars. Satan vous frappe à l'œil pour vous faire croire que votre Dieu n'est pas réel. Satan met une maladie sur quelqu'un, un cancer sur quelqu'un pour vous dire « Ton Dieu n'est pas réel. S'il était réel, pourquoi as-tu ces cancers ?» Sois sage, sois honnête avec toi-même. Il y a ce cancer qui est une réalité plus que ton Dieu. Voici comment Satan agit. C'est à vous, vous êtes l'arbitre. À qui allez-vous donner la victoire? Vous êtes l'arbitre. À Dieu ou à Satan? C'est à vous de choisir, c'est vous qui êtes l'arbitre du combat. Frère, ne nous laissons pas aller. Hein? La vie chrétienne, ce n'est pas le rassemblement. C'est à la maison. C'est au service. C'est dans le quartier qu'on sait que vous êtes chrétien ou pas. À l'église, même les chaises sont chrétiennes. Les micros sont chrétiens. Tout est chrétien à l'église. Ça ne veut rien dire. Les micros sont chrétiens. Les fleurs même sont chrétiennes. Non, je vais vous parler un cœur à cœur. Je ne veux pas venir vous parler de l'onction, de la puissance de Dieu. C'est très bien, mais je vais vous parler cœur à cœur. Parce que quand vous allez quitter ici, vous allez descendre dans la vallée. Quand Jésus était sur la montagne de la transfiguration, Pierre, Jean et Jacques ont été tellement émerveillés par la transfiguration de Jésus qu'ils ont décidé. Ils savent bien que dans la vallée, il y a des problèmes. Pierre a dit, nous ne voulons plus descendre dans la vallée. Nous voulons rester sur la montagne. Et nous sommes prêts à ne pas avoir une tente. Ce qui est important, que Jésus, tu aies une tente, Élie sa tente, Moïse sa tente. Nous, on peut vivre sans tente. Mais ce qui est important, qu'on vous admire. Jésus dit, non, la vie chrétienne, c'est la vallée. Descendons dans la vallée. Et dans la vallée, il y avait un enfant qui était traumatisé par un esprit. Et les disciples de Jésus ne pouvaient pas le chasser. Voici la vie chrétienne. C'est dans la vallée que ça se passe. C'est pas sur la montagne. Dans la vallée. Au moment où Moïse était sur la montagne, dans la présence de Dieu, Aaron faisait un veau d'or dans la vallée. Parce qu'il n'était pas conscient de la présence de Dieu. Dès le moment, regardez ce que Dieu a dit par Moïse. Dieu a dit à Moïse, ce mois est le premier des mois. Ce mois va faire la différence avec les autres mois. Ce mois est un commencement nouveau dans votre vie. Les nouvelles choses vont commencer. Mais soyez conscients d'une chose, c'est que moi, je serai avec vous. Je vais vous conduire nuit et jour jusqu'à la fin de votre voyage, jusqu'à Canaan. Ma présence sera là. C'est ce qu'il nous a fait dans Matthieu 28. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du. Je ne vous abandonnerai point. Mais pourquoi aujourd'hui vous pensez qu'il vous a abandonné? C'est la même chose ici. Frère, c'est ça. Dieu, quand on dit que la présence de Dieu, Dieu est toujours caché dans quelque chose d'anonyme. Dieu était caché dans un nuage, sans bruit. Et à force de suivre ce nuage-là, se sont habitués au nuage, ils ne pensaient plus que Dieu était dans un nuage. Ils ont oublié ça. Et vous avez oublié que Dieu est en vous. Réfléchissez. Il y a longtemps, vous avez oublié que Dieu est en vous. Il y a des choses que vous ne ferez pas. Chaque matin, quand vous vous réveillez, la première chose, suis conscient que ce corps-là, cette enveloppe-là, est en même temps l'enveloppe de Dieu. Dieu habite en moi. Non, je vous parle profondément. Chaque matin, quand vous vous réveillez, êtes-vous conscient de ça? Ils ont tellement été habitués au nuage. Ils ont regardé le nuage pendant les premiers jours de leur marche. Oh, c'était beau, c'était extraordinaire. C'était un événement, quelque chose d'extraordinaire. Et quand la nuit, c'est devenu du feu, ils ont dit, oh, c'est merveilleux. Les chrétiens aiment ça. C'est la nouvelle mode. Tout ce qui brille attire l'attention des gens. Mais au fur et à mesure qu'ils avançaient avec la colonne de feu et la colonne de nuée, ils se sont habitués. Et quand ils se sont habitués, Dieu n'est plus une réalité pour eux. Pourtant, écoutez, frères et sœurs, quand Pharaon approchait, au-dessus de leur tête, Dieu était là. Dieu était là, verticalement sur leur tête. Là. Ils levaient les yeux et regardaient, mais n'étaient plus conscients de la présence de Dieu. Ils étaient conscients de qui? De la présence lointaine de Pharaon. Conscients de ça. Pourtant, Dieu leur avait dit, Dieu avait déjà parlé. Dieu avait dit, regardez le chapitre 14, quand on lit le premier verset, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pit à Arof. Pharaon dira, les enfants d'Israël se sont égarés dans le désert les a enfermés. Il va les suivre et il dit en ce moment, Dieu a parlé, la parole a été donnée. Alors que nous savons que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend doit venir de la parole de Christ, de Dieu. Et Dieu a parlé à Moïse qu'il fera sortir Pharaon. Mais de ne pas s'en faire, il va détruire Pharaon. Il va annuler Pharaon. Ils avaient la parole. Ils avaient la présence. Les deux éléments, la parole et le Saint-Esprit. Mais n'ont pas pu saisir l'opportunité. Nous avons la parole et le Saint-Esprit en nous et avec nous. Les deux éléments sont avec nous. Nous avons non seulement la parole écrite, nous avons la parole esprit et vie en nous. Nous avons le Saint-Esprit, il ne nous a pas abandonnés, il est en nous. Alors pourquoi il n'y a pas la victoire? C'est fatigant pour un homme de Dieu d'expliquer les mêmes choses à l'Église. Parce que, vous comprenez, le peuple a un regard sur un homme. Le peuple croit qu'il n'a rien. Alors que dans la nouvelle alliance, il n'y a plus le sacerdoce et le peuple. C'est un seul peuple. Tout le monde est là-dedans. Et chacun est devenu le temple du Saint-Esprit. Et quand ils ont dit cela, mais malgré toutes ces choses-là, face à ces deux présences, quelle sera la réaction du peuple de Dieu? Quelle sera la réaction? Il y avait la présence de Dieu au-dessus d'eux, très proche d'eux. Et il y avait la présence de Pharaon qui venait, et ils étaient au milieu. Quelle sera la réaction du peuple de Dieu face à ces deux présences-là? Jésus nous a dit, lui il est avec nous, et en même temps il nous a dit, Satan rôde. Il rôde en faisant beaucoup de bruit. Satan rôde, comme Pharaon faisait beaucoup de bruit avec ses chars. Satan rôde comme cela, fait beaucoup de bruit. Pour nous faire peur. Nous faire peur, frère. Regardons la réaction. La Bible dit, quand nous regardons ce qui est écrit ici, verset 10, on reprend. Quand Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux. Au lieu de lever les yeux pour regarder à la présence de Dieu, ils levèrent les yeux pour regarder quoi? La présence de Satan derrière eux. La Bible dit que Satan était derrière eux. Qu'est-il facile de faire? Lever les yeux, regarder là, ou de tourner, tordre le cou pour regarder derrière Satan. Pourtant, les chrétiens font beaucoup d'efforts pour tordre leur cou, pour être conscients de la présence de Satan et oublier la présence. Il suffisait de lever seulement les yeux et regarder la présence de Dieu et il devait dire, Dieu a dit à Moïse de nous dire que Pharaon sortira. Pharaon sortira, c'est sûr et certain. Mais Dieu nous a déjà prévenus, la parole nous a avertis que la sortie de Pharaon ne doit pas être un problème pour nous, car Pharaon est déjà un ennemi vaincu. Ils n'ont pas cru à cela. Leur réaction, lisons frère, la réaction, la Bible dit ici, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils eurent une grande frayeur, parce que leurs yeux étaient fixés maintenant, non pas sur la présence de Dieu, mais sur la présence de Pharaon. Et quand vos yeux sont fixés sur la présence de Pharaon, alors le résultat c'est la peur. Vous oubliez totalement la présence de Dieu. Au moment où ils avaient peur là, Dieu était là, Dieu n'avait pas changé, Dieu n'avait pas varié, il était aussi puissant, plus puissant que Pharaon. Regardez, ils ont commencé à crier. Ils disent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens et que de mourir au désert. Chaque fois que vous êtes conscient, soit de la présence de Dieu ou de la présence de l'ennemi, votre langage change. Votre langage est moulé par rapport à ce dont vous êtes conscient. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez en Dieu lorsque vous murmurez contre lui. Une dame, une grande cantatrice chrétienne, chantait dans une église un cantique merveilleux. Sa voix, son éloquence. Quand elle chantait, il y avait un silence complet dans l'église. Et quand elle a fini, toute l'église s'est levée à applaudir cette dame-là. Parce que son chant était merveilleux. Sur la présence de Dieu, Dieu est réel. Et puis elle se tordait, elle disait, mais Dieu est réel. Oh, Dieu est réel. Mais quand la réunion est finie, un jeune converti s'est précipité vers la dame. Et dit à cette dame-là, oh madame, votre chant m'a bouleversé. Parce que vous avez parlé, vous avez chanté la présence de Dieu. Vous vous êtes tortillé, vous avez dit, vous avez fermé les yeux, vous avez tout fait. Et comme si la présence de Dieu est là. Il dit, mais moi, comment pouvez-vous me montrer? Et cette dame-là a répondu à ce jeune homme-là, ce jeune converti. Non, ce n'était qu'un chant que je chantais. Ce n'était qu'un chant que je... Alors, avec ça, vous voulez que ce garçon, ce nouveau converti vienne à l'église demain? Si vous ne faites que chanter des chants? Si les chants que vous chantez, ce ne sont que des chants que vous chantez, ce n'est pas réel, qui va vous suivre? La question est là. Ce n'était qu'un chant. Le jeune homme a rebroussé chemin lentement en disant, ce n'était qu'un chant. Ce n'était qu'un chant. Ce n'était qu'un chant. Et il est sorti de l'église comme ça, ce n'était qu'un chant. Donc Dieu n'est pas réel. Ce n'était qu'un chant. Ah bon? Quand vous avez levé les bras et vous avez dit, Dieu est là. Quand vous êtes tortillé, ce n'était qu'un chant. Ce n'était qu'un chant. Ah bon? Quand vos larmes coulaient, vous chantiez et vous dites que Dieu est présent et vous criez. Ce n'était qu'un simple chant. Oui. Bon, donc votre Dieu n'est pas réel, madame. Votre Dieu n'est pas réel. Il vaut mieux que je m'en aille. La drogue est plus réelle que votre Dieu. Car lorsque je prends la drogue, je vois des choses qui se passent. Je suis apaisé. Mais votre Dieu, c'est du mensonge, madame. Réfléchissez un peu. Quand vous chantez qui? Vous chantez quoi? Vous chantez pour vous-même? Pour vous calmer? Vous chantez pour apaiser votre cœur? Vous voulez quelque chose pour vous remonter? Ou bien vous êtes en train d'adorer Dieu? Être conscient de la présence de Dieu. Être conscient. Que Dieu est réel. Ils ont commencé à murmurer. Ce même peuple qui dans Exode 12, qui dans Exode 13, ils ont vu la puissance de Dieu en Égypte. Ils ont vu l'ange de la mort est passé par-dessus eux, sans les toucher, à cause de la présence de Dieu, maintenant, ils sont en train de douter, ils sont en train d'accuser Moïse. Moïse leur dit, pourquoi ces cris? Pourquoi vous criez? Parle maintenant, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Dis-leur de marcher, de continuer à marcher. Dès le moment où la colonne de nuée ne s'est pas arrêtée, continuez à marcher. Le Saint-Esprit ne s'est pas arrêté. Le Saint-Esprit ne s'est pas affaibli. Il n'est pas devenu quelqu'un d'important entre-temps. Le Saint-Esprit n'a pas perdu sa puissance. Il n'a pas perdu sa gloire. Il n'a perdu rien, ni le nom de Jésus. C'est Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, est le même Saint-Esprit qui est avec nous aujourd'hui. Pierre n'a pas un Saint-Esprit supérieur à notre esprit. Jésus-Christ n'a pas un Saint-Esprit supérieur à mon esprit. Jamais. Est-ce que vous allez vous réveiller enfin? L'esprit qui était en Jésus est le même Saint-Esprit. Sans moins rien en vous et en moi. Frères et sœurs, c'est le même Saint-Esprit. Alors pourquoi nous vivons un chrétien de seconde zone? C'est le même Saint-Esprit. Le même. Le même baptême du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, Marie, la mère de Jésus, les frères de Jésus ont reçu le baptême du Saint-Esprit. On parlait en langue. Les 120 ont parlé en langue. Le même Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte est le même Saint-Esprit que tu as reçu. Pas plus, pas moins. Quand Pierre était conscient de la présence de Dieu, en lui et avec lui, il est descendu de la chambre haute et il a dit à ces hommes-là, il a commencé à prêcher, 3000 âmes ont tremblé et se sont convertis. Pourquoi? Le même Pierre, il y a 40 jours en arrière, 50 jours en arrière, malgré la présence physique de Jésus, n'était pas conscient de la présence physique de Jésus, a régné Jésus en sa propre présence. Il n'était pas conscient. On peut être avec Jésus sans être conscient qu'il est réel. Il a régné devant Jésus. Il a osé dire qu'il ne le connaît même pas. Il a juré qu'il ne l'a jamais vu. Jésus s'est retourné, il a regardé. Il dit, Pierre, c'est ça. Mais le jour de la Pentecôte, quand Pierre a réalisé la présence réelle de Jésus en lui et avec lui, il est descendu sans peur. Donc, il a commencé à prêcher. 3000 âmes se sont converties. Bien-aimés frères et sœurs, il est devenu conscient de la présence de Dieu. Il est devenu conscient qu'il n'était plus seul. Il est devenu conscient que le Seigneur vit en lui. Asseyez-vous et regardez. Le même Seigneur vit en toi et en moi. Est-il impuissant aujourd'hui? Non. Mais quelle est la place que vous et moi, nous lui donnons? Quelle est la réalité de cette présence-là? Je ne veux pas être long parce que je vais aller de progrès en progrès. Je voudrais que d'ici le vendredi, cette présence de Dieu soit manifeste. Manifeste. Je dis qu'à présent, il n'est pas manifeste. Je suis en train de dire simplement qu'est-ce qui bloque la présence de Dieu. Il faut qu'on arrive au summum pour que vendredi et samedi midi, que nous puissions voir la manifestation de la réalité de Dieu en nous et avec nous. Frères, sans ça, nous allons aller de séminaire en séminaire, de conférence en conférence. Nous allons partir, dès que nous sortons, nous oublions tout. Je suis en train de vous rappeler des choses que vous connaissez, mais que vous avez négligées, simplement. Moïse a parlé à Dieu. Moïse était le seul parmi eux qui était conscient de cette présence-là. Et Dieu a dit à Moïse, prends la verge de ta main. Ça, c'est l'autorité. Tu as ma parole, un. Tu as ma présence, deux. Maintenant, prends la verge, exerce ton autorité. Tant que tu n'exerceras pas ton autorité, tu ne sauras pas que je suis un Dieu réel. Voici le problème de beaucoup d'entre nous. Dieu est réel en vous, mais vous refusez d'exercer votre autorité au nom de Jésus. Comment pouvez-vous savoir que Dieu est réel si vous refusez d'exercer votre autorité? Comment vous allez le savoir? Dieu dit à Moïse, prends ta verge, qui est le symbole de l'autorité que je t'ai donnée dans le désert. Et il dit à Moïse, va, étends ta main sur la mer et fends-la. 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 Ma présence est là avec toi, Moïse. Fends la mer. Mais réfléchissez, si Moïse n'était pas conscient que Dieu est réel, Moïse sait qu'un simple bâton ne peut pas ouvrir une mer. Moïse sait, comme nous devons le savoir, qu'une simple imposition des mains sur quelqu'un qui a une tumeur, une simple imposition des mains détruit cette tumeur-là. Comment? C'est la même chose avec Moïse. Comment, quel est le rapport entre un bâton et cette mer que, en tendant la main, et la mer sera, va s'ouvrir? C'est parce que Moïse est conscient de Dieu a parlé, hein, la parole de Dieu, deuxièmement la présence de Dieu. Maintenant, l'autorité de Dieu doit se manifester. Et Moïse s'est avancé. Dieu dit à Moïse, dis au peuple de marcher, continuez à marcher vers la mer, continuez à marcher vers la mer. Mais le peuple dit, mais si nous marchons vers la mer, nous ne savons pas nager. Dieu dit, continuez à marcher. C'est ça que la Bible dit. Continuez à marcher. Ne vous retournez pas. N'allez pas en arrière. Au point crucial, au moment convenable, Dieu intervient toujours au temps convenable. Dieu n'intervient pas selon notre programme. Les termes, vous connaissez bien ces trois termes, le chronos, le kéros et le pléro. Les trois termes, le chronos qui est la chronologie, le pléro et le kéros qui est le temps, et le pléro qui est le temps convenable. Il est dit au temps convenable, Jésus est venu dans ce monde-là. Les trois temps de Dieu. Dieu dit de marcher, et Dieu agira en son temps, pas en votre temps, pas en mon temps, en son temps. Beaucoup de gens veulent voir des miracles en leur temps. Vous ne pouvez pas fixer à Dieu son temps. Dieu dit marcher seulement. En mon temps, tu verras le miracle. Ils ont continué à marcher. En ce temps, Pharaon venait derrière. Et quand il est arrivé là, Moïse a simple. Dieu dit maintenant, lève ton bâton sur la mer, fends-la. Et quand Moïse a fait cela, frère, mais en ce temps, quand ils se sont tournés, et la poussière des Égyptiens montait. Moïse a tendu sa main, frère. Et l'ange de Dieu qui allait devant eux s'est déplacé, se mettre derrière. Comme un écran entre Israël et Pharaon. Verset 21, Moïse étendit sa main sur la mer. Il étendit sa main avec sa verge sur la mer. Et, conjonction de coordination, s'il n'avait pas étendu sa main, le « et » n'a pas de sens. Le « et » ne se manifestera jamais. Il étendit sa main. Un acte qui est un acte ordinaire, mais qui est un acte de folie. Qui est un acte de folie. Vous avez une renommée que vous ne voulez pas perdre. Parce que vous êtes des hommes qu'on doit... Le problème, c'est ça. C'est-à-dire que vous ne voulez pas qu'on vous traite de dérégler des sectes. Mais c'est ça. On ne peut pas voir des miracles sans qu'on ne se laisse pas traiter de... On a dit la secte du Nazaréen. Les journaux de l'époque du temps de Jésus ont dit la secte des Nazaréens. Ils ont dit ça à Pierre, à Paul. Vous ne pouvez pas être chrétien sans qu'on vous traite de secte. Si vous voulez qu'on ne vous traite pas de secte, alors changez, faites autre chose, dansez le goumbé, guembé. On n'a jamais critiqué les danseurs, jamais. Ouais. Vous ne voulez pas qu'on vous critique? Vous voulez être des gens bien... Vous voulez qu'on vous respecte? Non! Si vous voulez qu'on vous respecte, ne parlez jamais de la puissance de Dieu, ne parlez jamais de guérison, ne parlez jamais de délivrance, alors on vous respectera. Mais si vous voulez voir Dieu à l'œuvre, on dira que vous êtes des fous. Pendant des années, Papa Jean a été traité de fou dans toute la région. Mais aujourd'hui, qui peut nier que cet homme-là a affecté toute la région et même la France et en dehors et l'Afrique? Qui peut nier cela? Mais quand il marchait tout seul avec sa femme, tout le monde dit il est fou. Moi, j'aime un fou comme lui. Non, écoutez, c'est très important. Tendre la main, scientifiquement, tendre la main sur une mer, ce n'est pas 3000 mètres cubes, hein, c'est des milliards de mètres cubes d'eau. Tendre la main, quelle est la relation? Quel est le coefficient de corrélation entre la tendre la main avec un bâton sur une mer rouge et qui doit s'ouvrir? Aucune corrélation. Scientifiquement, il n'y a rien. C'est de la bêtise. Vous devez perdre votre renommée si vous voulez avancer avec Dieu. Si vous voulez voir Dieu agir, soyez prêt à perdre votre renommée. Soyez prêt à ce que les gens se moquent de vous. Soyez prêt à ce qu'on vous ridiculise. Et c'est en ce moment que Dieu va agir. Quand Moïse a voulu tendre les mains, c'est sûr et certain que les gens ont dit à Moïse, faut pas faire ça, hein. Faut pas te ridiculiser. Parce qu'il n'y aura rien. Il n'y aura rien, Moïse. Pense à ta renommée, tu es un grand chef religieux. Tu peux faire mieux que ça. Si tu avais des pirogues, on allait traverser. Mais ta main sur le fleuve, il n'y aura rien. Moïse dit, je connais mon Dieu. Je sais qui il est. Il faut connaître votre Dieu. La connaissance de votre Dieu va vous propulser du fauteuil de l'échec au fauteuil du succès. Vous allez sortir de la vallée de l'ombre de la mort, sain et sauf. Vous allez sortir de tous les feux sataniques, sortir des lions sataniques, et vous marcherez sans que personne puisse même sentir l'odeur du feu sur votre, dans vos cheveux, comme Shadrach, Meshach et Abednego. Si les gens de l'Ancien Testament, sans le Saint-Esprit, sans la nouvelle naissance, ont été gardés par Dieu, je n'ai pas dit que Dieu garde les gens à 100%, mais il y a des moments où on passe par des événements terribles. Mais je veux dire que lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu comme Moïse, Dieu voulait qu'il traverse la mer Rouge, en ce moment-là, soyons fermes. Dès le moment où nous connaissons la volonté de Dieu, soyons fermes. Moïse savait que Dieu voulait qu'il traverse la mer Rouge. Et en ce moment, nous devons être inébranlables dans la foi. Et Moïse a tendu la mer Rouge s'est ouverte. Et en 1981-82, j'ai lu dans un journal, le journal Jeune Afrique de l'époque, quelqu'un a voulu ridiculiser la Bible en disant que, mais quand Moïse et ce peuple-là sont sortis, donc, pour traverser la mer Rouge, oh, il a dit non, que les études scientifiques ont démontré que la mer Rouge était à son bas niveau, au niveau le plus bas, et que ça n'atteignait même pas les chevilles des gens. Et que c'est pourquoi Moïse et le peuple ont traversé la mer Rouge. Alors j'ai pris mon bic et j'ai écrit à ce monsieur qui était à Paris. Il dit, monsieur, vous êtes très intelligent, hein. Mais je vous remercie parce que vous venez de me prouver que Dieu est réel. Pourquoi ? Un. Donc vous êtes sûr que c'est dans cette même eau-là que l'armée de Pharaon est morte. Une eau qui n'atteint pas les cheveux et l'armée d'Égypte est morte dans ça-là. Donc c'était le miracle est plus grand que moi, je le pensais. Vous voyez, parfois quand les savants veulent nous ridiculiser, ils se ridiculisent eux-mêmes. Comment voulez-vous que des chars, des soldats, des commandos soient noyés dans une eau qui n'atteint même pas les cheveux et les chevilles? Parfois, quand on veut ridiculiser la Bible, on se ridiculise soi-même. Quand j'ai écrit ça, ils ne m'ont jamais répondu. Et ils ne me répondront jamais. Parce que les gens ne croient pas. Frères et sœurs, discernez, être conscient de Dieu. Dieu est présent avec vous. Dieu est présent. Je termine par ce témoignage. Un jour, on m'a appelé. Une de nos chrétiennes qui est diaconesse, son mari au Congo, est tombée dans le coma. Coma. Donc, l'hypertension et la tension était zéro. Je suis arrivé, les gens sont allés prier. Ils m'ont dit, non, pasteur, il faut venir toi-même. J'ai dit, je suis occupé. À la fin, je suis allé. Quand je suis rentré dans la salle, les médecins étaient là. Et ils essayaient de faire revenir la femme. Ses yeux étaient d'un blanc. Et ils étaient en train de tout faire pour la réveiller. Ils ont dit, allez prendre du sucre, de tout. Et je me suis arrêté là. Je savais que si je veux prier, ce sera une prière sans foi. Je me suis éloigné dans un coin de la chambre du malade. Au moment où les docteurs opéraient, je me suis arrêté jusqu'à ce que je sois conscient de la présence de Dieu. J'ai fermé mes yeux, je me suis arrêté. Et à un moment donné, quand j'ai su que mon cœur est dans le repos, j'ai ouvert mes yeux. Et maintenant, j'ai commencé à parler en langue. Quand j'ai fini de parler en langue, j'ai proclamé, Madame, revenez maintenant. Sortez de ce coma au nom de Christ Jésus. Dès que j'ai dit ça, tout de suite, la dame est sortie et dit où je suis. Les médecins, il y a une infirmière qui a fui. L'infirmière a fui littéralement, elle a couru aller dans la salle de garde. Soyez conscients. C'est le présent de Dieu est en vous et avec vous. Le plus faible chrétien ici a cette présence de Dieu en lui. Mais sachez l'entretenir. N'attristez pas le Saint-Esprit. C'est ça qui fait qu'il n'opère pas. Ne lui mentez pas. Vous avez des problèmes. Ne le blessez pas. Tous ces termes sont là, dans la Bible. Soyez conscients. Entretenez le Saint-Esprit dans l'obéissance, dans l'humilité, dans la sainteté. Et au temps convenable, le Saint-Esprit agira. Sa présence sera réelle avec vous et sa grâce sera avec vous. Nous allons prier pour terminer. Nous sommes à notre première soirée en dehors du dimanche matin. Nous voulons avancer. Nous avons vu savoir discerner la présence de Dieu et être conscient de la présence de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, Vous êtes chrétien. Vous savez que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Mais jusqu'à présent, avez-vous réellement discerné cette présence de Dieu avec vous? Et êtes-vous conscient, consciente de cette réalité, de la présence de Dieu en vous devant n'importe quelle situation? Allez-vous prendre du temps ce soir, là où vous êtes, dans votre famille, dans l'hôtel où vous habitez, pour vous asseoir et faire le point pour savoir si réellement vous êtes conscient de cette présence-là? Cette présence n'est pas dans certains hommes, elle est dans chaque personne. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la maison d'habitation de Dieu. C'est une réalité. Le Saint-Esprit demeure en nous. Le Saint-Esprit vit en nous. Le Saint-Esprit a fait de nous sa maison. Êtes-vous conscient de cela? Mais si vous l'avez blessé, vous allez demander pardon. Si vous l'avez attristé par la désobéissance, vous lui demanderez pardon afin que votre relation avec lui soit une bonne relation. N'oubliez pas que dans cette Trinité, il est dit l'amour du Père, la grâce du Seigneur, mais il est dit la communion du Saint-Esprit. Avez-vous gardé cette communion? Si vous ne gardez pas la communion avec votre femme, votre couple ne sera jamais heureux. Si vous blessez votre femme en permanence, votre couple ne sera jamais heureux. Et le Saint-Esprit est en partenariat, est avec vous. Mais si vous le blessez, si vous le méprisez, si vous ne faites, vous n'êtes pas conscient de sa présence, vous l'empêchez d'exercer l'autorité du nom de Christ Jésus en votre faveur. Et en ce moment, vous devenez un chrétien faible et vous allez penser que Dieu vous a abandonné. Alors que la présence de Dieu est aussi réelle en vous que votre sang est réel dans vos veines. Votre sang qui coule en vous et le Saint-Esprit qui est en vous est plus réel que votre sang. Et est-ce que vous doutez de votre sang? Est-ce que vous doutez de la présence du sang en vous? Non. Le fait que vous soyez vivant prouve que vous avez le sang en vous. Le fait que vous soyez vivant spirituel prouve que vous avez le Saint-Esprit. Mais entretenez-le. C'est pourquoi vous entretenez votre sang. C'est pourquoi vous ne mangez pas n'importe quoi. C'est pourquoi vous ne mangez pas n'importe quelle nourriture. Pour que votre sang soit purifié. Entretenez le Saint-Esprit de la même manière. Et vous verrez alors votre vie chrétienne être une vie chrétienne puissante, victorieuse, sainte, une vie chrétienne heureuse. Père, je te prie ce soir que mes frères et mes sœurs réalisent cela. Ils le savent mentalement, ils le savent intellectuellement. Mais peu de gens vivent cette réalité. Père, certains croient que c'est pour les pasteurs, c'est pour les prophètes, c'est une réalité pour les apôtres. Non, c'est une réalité pour tous les disciples de Christ qui sont nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit. Donne-leur cette révélation, Père, et que ta grâce soit avec chacun d'entre eux. Au nom de Jésus, amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va aller pas à pas.
Enseignement.com.
Enseignement.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignement.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.